Chapitre 5. Dans son cabinet de travail, le roi Boris venait d'achever sa tâche de la matinée. Et maintenant, ayant mis en ordre les papiers officiels qui couvraient son bureau, il s'accoudait à son fauteuil et appuyait sur sa main sa belle tête songeuse. Sa Majesté rêvait encore, et cette rêverie ne devait rien avoir de gai, à en juger par l'expression de sa physionomie. Une porte s'ouvrit sans bruit, laissant apparaître une femme de petite taille, dont la physionomie grave et douce s'encadrait de deux bandeaux blonds légèrement grisonnants. Le roi se leva, un léger sourire aux lèvres. « Ah, vous voilà, chère mère !» Et avec un affectueux empressement, il avançait un fauteuil tout près du sien, il faisait asseoir la reine, dont le regard l'avait enveloppé avec une tendresse fière. « Boris, je viens te rendre compte de ma mission, » dit-elle, tandis que le roi s'asseyait à son tour. Un léger tressaillement agita le jeune souverain. « Ah, vous l'avez vu, ma mère ?»« Oui, mon cher enfant, pauvre créature, si belle et si modeste, si profondément sérieuse en même temps. J'ai pleuré avec elle, Boris, mais quelle énergie a cet enfant !»« Oui, elle est admirable, » murmura le roi d'une voix frémissante. « Avez-vous pu, ma mère, trouver un moyen de lui venir en aide sans froisser sa délicatesse ?»« Très facilement. Elle exécute de fort jolies broderies grecques. Je lui en ai demandé que tes sœurs et moi allons mettre à la mode. Ainsi, notre exemple sera suivi et la pauvre enfant, en montant un petit atelier, pourra gagner sa vie et celle de ses cousins. Car c'est vraiment la complète misère, comme tu me l'avais dit, Boris. » Je lui ai conseillé de quitter cette masure isolée, de se loger plutôt en ville, où elle aura des facilités pour travailler et élever les enfants. » Quelques instants, le roi demeura silencieux, le front appuyé sur sa main. Puis, relevant la tête, il attacha sur sa mère son regard très grave et profondément triste. « Ma mère, faites tout le possible pour ces pauvres enfants, suivez-les toujours de votre protection. » « Mais il est une chose que je vous demande, c'est de ne jamais me parler d'Hélénie Héricles, car elle doit être morte pour moi. »« Que veux-tu dire, Boris ?» Le roi sortit d'une poche intérieure un petit portefeuille qu'il ouvrit. Entre deux feuilles de fin papier, sa mère vit une branche de chèvrefeuille séchée. « Je vous ai raconté, ma mère, comme je l'ai connue tout enfant. Le lendemain, je trouvai à la chapelle, sur mon prie-Dieu, ce chèvrefeuille. » Sans une hésitation, je me dis, c'est elle qui l'a mis là, et je l'ai conservé précieusement, aussi précieusement que je gardais en mon cœur le souvenir de la charmante petite créature dont le regard ravissant m'avait si profondément frappé. Dévouement silencieux, oui, c'est bien cela, c'est elle tout entière, si modeste et si vaillante. Cet enfant inconnu et jamais revu a été ma petite étoile. Sa pensée m'a préservée de tant de défaillances qui me guettaient. Dieu l'a donnée comme égide au roi des Cénies. Et lorsque je l'ai revue, semblable à autrefois, mais plus touchante encore dans sa grâce de jeune martyr, j'ai compris pourquoi j'avais tant de peine à songer à une union avec une quelconque de ces princesses qui me sont si indifférentes. La reine se redressa brusquement et posa la main sur l'épaule de son fils. « Boris, mais c'est absolument fou !» Il passa lentement la main sur son front. « Oui, je le sais, ma chère, c'est pourquoi je dois l'oublier. Alors, je songerai à un mariage de raison, puisque ma position l'exige. » Le regard désolé de la reine enveloppa la physionomie altérée du jeune roi. « Mon enfant, tu souffres. Comment toi, si sérieux, as-tu pu te laisser prendre par ce rêve ?» « Il faut penser, chère mère, que je suis un grand idéaliste. Allons, ne prenez pas cet air attristé, je vous en prie. La souffrance est bonne à l'homme, comme le disait l'autre jour le bon père d'Illusco. Et j'ajouterai surtout au roi. Si Dieu me donne l'épreuve, il m'accordera également la force de la surmonter. »« Comme tu es sérieux et véritablement chrétien, mon Boris !» murmura la reine en passant une main caressante sur la blonde chevelure du jeune souverain. « Quelle bénédiction Dieu m'a envoyée en me donnant un tel fils !» Le roi eut un mélancolique sourire et ses lèvres se posèrent longuement sur la main de sa mère. « Priez pour moi, mère chérie, afin que je remplisse courageusement mes devoirs de souverain et qu'elle ne soit plus pour moi que l'étoile très lointaine voilée par la brume de l'oubli volontaire. Un tribunal humain ne devait pas avoir la mission de juger et de condamner Stéphanos Ériclès. Le terrible révolutionnaire était depuis 3 jours à l'infirmerie de la prison, atteint d'une maladie qu'il ne pouvait pardonner, étant donné surtout son grand âge. Chaque jour, Eleni, munie de l'autorisation royale, venait passer 1 heure près de lui. Elle le trouvait maintenant moins farouche, il semblait même parfois considérablement abattu. Et la jeune fille, très doucement, risquait quelques mots discrets, elle essayait de toucher l'âme de ce vieillard si près de paraître devant Dieu. Le 3e jour, il parut l'écouter avec plus d'attention. Sur sa physionomie extrêmement changée par la maladie, une expression inaccoutumée se faisait jour. Eleni constata en effet avec effroi un effrayant changement. Le vieillard, ouvrant les yeux, la reconnut et murmura « Ah, c'est toi! J'ai à te parler !» Elle se pencha tout près des lèvres livides. « Il faut que je voie le roi. J'ai une grave révélation à lui faire devant toi. » « Voir le roi? Mais comment, grand-père ?» Il le faut, et aujourd'hui même, car demain ce sera fini. C'était sans doute le commencement du repentir. Stéphanos connaissait peut-être quelques complots en préparation, il voulait en prévenir le roi Boris. Il fallait absolument que le souverain fût averti. Mais comment y arriver? Par la reine, oui, il fallait solliciter une audience avec la bonne reine Marie. En sortant de la prison, elle se dirigea vers Volaïna. Elle savait que, depuis 2 jours, la famille royale se trouvait au château. Elle prit au passage le petit Hélos afin de se trouver moins seule pour cette démarche qui coûtait fortement à sa timidité, augmentée par la solitude où elle vivait depuis quelque temps. Dans la cour du château, des piqueurs tenaient en main plusieurs chevaux. En haut du perron, 2 jeunes officiers causaient en achevant de mettre leurs gants. Le regard surpris se posa sur la jeune inconnue qui gravissait les degrés et dont la mantille sombre ne dissimulait qu'à demi la saisissante beauté. Ils s'écartaient pour la laisser passer tout en portant la main à leur képi. Mais Eleni s'arrêta et, toute rougissante, demanda timidement « Pardon, messieurs, pourriez-vous me dire s'il m'est possible d'être reçu par Sa Majesté la Reine ?»« Je ne puis vous le dire, madame. » Il faut vous adresser au chambellan de service. » Et, très courtoisement, un des 2 officiers précéda Eleni, lui fit traverser le grand vestibule, orné de tapisseries et de magnifiques trophées de chasse, et l'introduisit dans un petit salon où se trouvait un homme d'un certain âge, à la mine froide et sévère. « Que désirez-vous, madame » demanda-t-il en se levant et en saluant légèrement. Eleni répéta sa demande. Le chambellan répondit d'un ton sec « Sa Majesté la Reine est en promenade. » « Mais un peu plus tard, peut-être. » « Sa Majesté ne rentrera pas avant ce soir. » Ce soir, l'infirmière n'avait pas caché à Eleni que Stéphanos n'avait plus que quelques heures à vivre. « Il faut pourtant que je la voie, elle ou le roi. » Le chambellan toisa d'un regard de dédaigneuse surprise l'humble personne qui osait émettre cette prétention. Le roi ne reçoit que sur demande faite à l'avance. Et d'ailleurs, Sa Majesté n'accorde jamais d'audience lorsqu'elle se trouve à Volaïna. Le cœur d'Eleni se serra à cette réponse, faite sur un ton péremptoire. Là-bas, pourtant, Stéphanos attendait. Il fallait encore tenter un effort. « Monsieur, il s'agit de quelque chose de très grave, » dit-elle d'un ton suppliant. « Je vous en prie, demandez à Sa Majesté. » « Je vous répète que c'est impossible. » Et son attitude disait clairement « Il me semble que vous abusez de ma patience. » Il n'y avait qu'à se retirer. Mais en prévision d'un refus, Eleni avait écrit un mot demandant à la reine d'obtenir de son fils qu'il voulût bien se rendre près de Stéphanos pour entendre ses révélations. « Voulez-vous, au moins, monsieur, remettre le plus tôt possible ce billet au roi, puisque la reine est absente ?» Le chambellan prit la petite enveloppe, la tourna et la retourna d'un air de dédain, puis dit, du bout des lèvres, « Oui, je la remettrai. Au revoir, madame. » Hélénie sortit du salon en serrant nerveusement la main d'Élos qui levait vers elle de grands yeux inquiets. Au moment où ils arrivaient dans le vestibule, une porte s'ouvrit tout à coup, le roi apparut en costume de cheval, suivi du prince Helvenco. Il eut un brusque mouvement de surprise en voyant devant lui Hélénie, qui s'était arrêtée aussi, toute saisie et toute rose d'émotion. « Mademoiselle Hélénie, » dit-il en se découvrant, « qui demandiez-vous? Ma mère, peut-être ?»« Oui, sire, mais c'était pour une communication qui intéresse surtout votre majesté. » « Alors, c'est à moi que vous vouliez parler? Rien de plus facile. Bonjour, petit Élos, et cette blessure ?» Souriant, il passait son doigt sur le front du petit garçon. « Il n'y en a plus trace, vraiment. Venez par ici, mademoiselle. » Ouvrant une porte, il fit entrer Hélénie et l'enfant dans un salon voisin et dit avec bienveillance « Voyons, de quoi s'agit-il, mademoiselle? Vous semblez fort bouleversée. » Le comte Boranoff a été un peu dur pour vous, n'est-ce pas? Il interprète toujours dans le sens le plus étroit les ordres donnés et ne s'est pas usé de ménagement. Il est heureux que je sois arrivée si bien à point. Allons, dites-moi sans crainte ce qui vous amène, mademoiselle Hélénie. Vous savez bien que le roi ne peut rien refuser à celle qui lui a sauvé la vie. » Ainsi encouragée, Hélénie présenta la demande de son aïeul. Sans une hésitation, le roi dit aussitôt « J'irai. Le plus tôt possible, s'il plaît à votre majesté, car les heures sont comptées pour mon malheureux grand-père. Dans une heure, je serai à la prison. C'est le temps nécessaire pour que vous y soyez rendu vous-même, puisqu'il veut que vous assistiez à l'entretien. Cependant, s'il s'agit de la révélation de quelque criminel complot, il aurait pu vous éviter cette nouvelle émotion. Oh, une de plus, qu'importe ! Murmura la voix brisée d'Hélénie. Une contraction passa sur le visage du roi. Il parut faire un violent effort sur lui-même pour dire tranquillement, sans regarder le pâle visage altéré par la fatigue, « Eh bien, dans une heure, c'est convenu. Emmenez-vous là-bas votre petit Élos ?»« Non, pauvre petit, c'est inutile. Je vais le ramener à la maison où l'attend son frère. »« Oui, vous avez raison. À tout à l'heure, mademoiselle. » Hélénie s'inclina avec un remerciement ému et sortit avec Élos. Dans le vestibule, le prince Helvenco la salua respectueusement, aussitôt imité par les officiers et par le chambellan lui-même, non encore remis de la surprise que lui avait causée l'acte de son souverain. Presque aussitôt, le roi sortit du salon. « Je ne ferai pas de promenade aujourd'hui, messieurs. Comte, donnez l'ordre qu'une automobile soit prête dans une demi-heure pour me conduire à Miclès. » Et il se dirigea vers son appartement, laissant les courtisans fort intrigués se demander quelle grave communication la jeune inconnue avait bien pu faire à sa majesté pour que celle-ci quittât ainsi précipitamment Volaïna.